première chose que je trouve intéressante, c'est le changement des discours. Si on regarde ce qui s'est passé, disons, depuis l'arrivée d'Internet dans les années 90 jusqu'à 2010, on était dans un discours utopique. Internet, ça allait être le renouveau de nos sociétés. Or, depuis quelques années, 2 ou 3 ans maintenant, on est au contraire passé dans un discours complètement dystopique où Internet, c'est la pire catastrophe qui soit arrivée à l'humanité. Moi, je suis rentré sur Internet en 93, ça fait un bail, et dès le début, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'étais dans cette logique utopique. Et en même temps, il y avait des choses qui me gênaient sur la concentration, sur le traçage, sur des choses comme ça. Et donc, on me disait, mais non, tu vois tout en noir. Bon. Maintenant que tout le monde dit du mal d'Internet, moi, je continue à trouver que c'est bien. Et donc, on dit, mais oui, mais tu oublies un certain nombre de... Non, voilà. Alors, je pense que l'image qui représente le mieux, c'est celle du yin et du yang. C'est-à-dire les énergies opposées, mais qui vivent de toute façon ensemble. Je reviendrai sur cette idée tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'on a eu un retournement. Or, ce n'est pas le premier retournement de l'Internet. La vidéo que je vais vous montrer maintenant... Alors, le son n'est pas fameux. C'est la vidéo de publicité de Apple en 1984. Bon, je sais pas, je pense que certains d'entre vous connaissent cette vidéo. Moi, je la trouve extrêmement significative. On est en 84 et avant, l'informatique, c'était le contrôle. En France, c'était Safari. Safari, pour faire un safari sur les pauvres en particulier. C'était gamin qui allait fliquer tous les jeunes. Enfin, c'était une informatique de contrôle et ça, à l'échelle du monde. Et d'un seul coup, avec l'arrivée du Macintosh, c'est liberté, interactivité. C'est-à-dire, on essaye de basculer de cette image d'une informatique de contrôle vers une image qui serait revenue dans les mains de l'usager. Et on va découvrir en même temps, c'est la naissance de l'Internet, hein, donc au moins aux États-Unis, et on va découvrir l'idée, Howard Rengold, qui invente l'idée qu'il y a des communautés virtuelles, c'est-à-dire qu'on peut faire communauté sans se voir, juste en échangeant au travers de The Well, qui a été la première communauté virtuelle qui a démarré en 84. Alors donc là, on a un premier basculement qui, bien sûr, est mythique. Mais ce qui est important de concevoir, à mon sens, le numérique, ce qui distingue le numérique de l'informatique, c'est en fait l'informatique plus les discours. C'est un peu ce qui distingue aussi la technologie de la technique. La technologie, c'est la technique plus les discours sur la technique. Et c'est fondamental, les discours sur la technique. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre l'évolution d'Internet, tout ce qui s'y passe, en se référant uniquement aux évolutions du logiciel, au travail des informaticiens, même si eux aimeraient bien de temps en temps, mais on est obligé en fait de s'appuyer sur les discours qui vont avec. Donc ce discours de liberté, aujourd'hui, voilà la photo, et si vous voyez, elle est en écho complet à la photo tout à l'heure, c'est-à-dire, tout à l'heure, on avait cette jeune fille qui était la seule en couleur et qui représentait le nouveau monde informatique, Macintosh, qui allait détruire Big Brother. Tous ces gens en costume de flanelle grise qui étaient les servants de l'informatique centralisée, l'informatique de contrôle. Là, c'est Mark Zuckerberg, le dirigeant de Facebook, qui est dans une salle et qui a devant lui tous les gens qui essayent le masque de réalité virtuelle de son entreprise. Voilà. Et donc là, je trouve qu'on a un parallèle, ce passage de l'utopie à la dystopie, c'est-à-dire comment on peut penser aujourd'hui que cette informatique individualisée, portable, qu'on a dans notre poche, etc., est devenue un instrument de soumission et de contrôle. Yes, we can. Hein, comme disait Barack Obama, c'est-à-dire, oui, nous pouvons suivre à la trace tout ce que font les gens. Et dans le même temps, we are the Internet, c'est-à-dire ce sont les gens qui construisent l'Internet. Ce ne sont pas les entreprises et les structures, c'est les gens qui y apportent leur savoir, leur connaissance. Donc cette double contradiction existe toujours et elle est la marque d'un écosystème. Voilà. Je pense qu'il faut arrêté, on a longtemps considéré qu'Internet était un média, ou qu'Internet était un outil, ou qu'Internet allait nous servir à quelque chose, et qu'il fallait savoir s'en servir, qu'il fallait savoir se présenter sur Internet, qu'il fallait savoir faire sa propagande sur Internet. Non, c'est plus la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'intérieur de l'Internet. Nos activités quotidiennes, l'ensemble de nos activités sont dans Internet, avec y compris des nouveaux phénomènes. Par exemple, les phénomènes d'exclusion pour tous ceux qui n'accèdent pas à la littératie numérique. Hein? Donc aujourd'hui, quand pour accéder à n'importe quel service public, il faut passer par Internet, on a un problème d'un nouveau décalage, d'une nouvelle forme d'exclusion. Mais pour autant, il nous faut penser que nous sommes à l'intérieur de l'Internet. Et si on est à l'intérieur de l'Internet, ça veut dire que l'ensemble des combats qui se mènent dans l'autre écosystème, qui est celui de l'écosystème terrestre, vont se retrouver à l'intérieur de l'écosystème de l'Internet. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer dans cette conférence, c'est-à-dire de penser qu'il faut rentrer les combats politiques et démocratiques du monde physique dans ce monde virtuel, parce qu'ils ont un effet secondaire absolument énorme sur notre monde physique, et pas seulement sur l'élection de Donald Trump. Alors, pour revenir sur cette logique utopie, dystopie et changement des discours, voyons d'abord ce qui a commencé avec Internet au début, c'était l'optimisme économique. C'était la porteuse d'une nouvelle croissance. On a parlé de nouvelle économie ou de weightless economy, il n'y a pas de traduction française, mais c'est une économie qui pèse rien. Bon, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est 5% de la consommation d'électricité du monde. Ça pèse pas rien. C'est une véritable économie matérielle avec des data centers. Voilà. On a aussi eu Internet est arrivé en coïncidence, je ne crois pas à la causalité dans les deux, mais à la coïncidence avec le discours néolibéral, et de facto a servi de modèle au discours néolibéral. Parce que sur Internet, on pouvait se regrouper à la base, donc on n'avait pas besoin des États et des structures et des réglementations et des choses comme ça. Donc, concordance des discours. Aujourd'hui, si on regarde ce que j'appelle en référence à Schumpeter, qui parlait de destruction créatrice, c'est-à-dire à un moment donné, pour créer quelque chose de nouveau, il faut détruire des choses anciennes. Les voitures ont remplacé les diligences, et tant pis pour les fabricants de diligences, il y a eu plus d'employés dans les fabrications de voitures. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas avec Internet, puisque justement, on a une menace sur l'ensemble du travail, que ce soit le travail manuel ou le travail intellectuel. Et puis on a ce basculement d'une économie et donc d'une croissance qui serait mesurée dans un monde complètement virtuel. L'image que vous avez là est très intéressante, c'est un krach boursier. C'est un krach boursier qui a duré une milliseconde entre gens qui font du trading haute fréquence. Et il y en a maintenant en permanence qui arrivent et ça n'influe. Alors, on sait depuis longtemps que la finance n'influe pas vraiment sur l'économie réelle, ou plutôt uniquement quand il y a des grandes crises et qu'il faut aller renflouer les banques. Mais sans ça, on a des catastrophes comme ça. On a aussi un phénomène de concentration des acteurs. Donc, du point de vue économique, ce qui apparaissait comme une innovation décentralisée, porteuse de la liberté d'entreprendre, aujourd'hui n'existe plus. Nous avons quelques acteurs majeurs, et dès que quelqu'un d'autre existe, il se fait racheter par ces acteurs majeurs. Nous avions bien sûr un optimisme culturel qui s'est développé. Donc on avait une nouvelle forme culturelle qui émergeait, y compris par exemple le jeu vidéo, toute une série de diffusions nouvelles, la capacité pour les individus de mettre leurs vidéos sur YouTube, etc. Or, aujourd'hui, on revient en arrière sur cette opportunité, en pensant que, avant tout, Internet, c'est le danger qui pèse sur le monde de la culture. Et le fait que l'on ait nommé aujourd'hui au ministère de la Culture celui qui a porté Adopi sur les fonds baptismaux n'est pas sans danger pour tous ceux qui pensent à une nouvelle économie qui puisse se mettre en œuvre. Enfin, on a aussi une domination par des marchands sur le système culturel. Alors, ça a toujours existé, bien évidemment, depuis que l'imprimerie existe, depuis que les éditeurs existent, ces salauds-là vendent des livres. Mais bon, que voulez-vous, c'était une conception marchande de la culture qui n'est pas tout à fait la même, parce que l'éditeur ou le producteur phonographique est un partenaire de la création. Aujourd'hui, on a juste des distributeurs comme Amazon qui distribuent des livres, y compris des livres auto-édités et dont même certains font partie des jurys littéraires. On a connu à la même époque un grand optimisme associatif par rapport à l'Internet. Quand le 1er janvier 1994, Une bande de paysans armés de pistolets à bouchons rentre à San Cristobal de las Casas. Immédiatement, grâce à Internet, la parole du sous-commandant Marcos est diffusée dans le monde entier, des petits réseaux qu'il y avait à l'époque, mais qui ont immédiatement été repris et qui ont provoqué ce que la RAND Corporation, c'est le brain trust de l'armée américaine, a appelé le swarming. Elle parle de social network. Le swarming, c'est le moment où les abeilles construisent un essaim. Donc, quand il y a une reine, à un moment donné, toutes les abeilles sont autour, font un essaim ensemble. Et bien, le swarming, ça a été ça. Dès février 1994, les gens du monde entier venaient en observateur à San Cristobal de las Casas pour protéger quelque part, par leur simple observation et leur capacité à rediffuser dans le monde entier ce qui se passait quand l'armée se préparait à réintervenir au Chiapas. Et ce phénomène-là, le brain trust de l'armée américaine, la RAND Corporation, on a eu peur parce qu'il s'est passé plein de fois depuis. Il s'est passé lors des printemps arabes, quand Moubarak a bloqué l'Internet, deux fois plus de monde sont venus sur la place Tahrir. Pourquoi ils n'y étaient pas avant? Parce qu'ils avaient les vidéos, parce qu'ils étaient au courant, parce qu'ils savaient, ils pouvaient téléphoner à leurs enfants, leurs amis qui étaient sur place. Quand ça n'a plus été possible, ils sont encore tous redescendus encore plus. C'est-à-dire, on a un phénomène où Internet sert à focaliser à un moment donné l'attention des mouvements associatifs. C'est un outil de coordination. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il ne suffit pas de se coordonner, il ne suffit pas d'être nombreux, il ne suffit pas de faire les printemps arabes ou de faire l'occupation du parc Gezi à Istanbul ou de faire Occupy Wall Street, ou etc., 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 parce qu'il faut construire dans la durée, y compris des mouvements majeurs comme celui qui est noté par le hashtag MeToo, qui est un second souffle du mouvement féministe. Le problème qu'il a aujourd'hui, c'est d'être capable de passer d'une logique d'opinion à une logique de construction d'une alternative, c'est-à-dire ce qui va s'insérer réellement dans le cadre démocratique. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on est capable de conserver la capacité de l'Internet à créer de l'opinion, à créer des courants d'opinion, mais comment on va reconstruire le livre de Zeynep Toufeksi qui s'appelle « Twitter et les gaz lacrymogènes » est traduit chez nous, il devrait paraître dans les deux mois qui viennent, où justement elle pose l'ensemble de ces questions-là. C'est une sociologue d'origine turque, mais qui vit aux États-Unis et qui pose cette question en rappelant que le mouvement des droits civiques aux États-Unis, qui pour beaucoup de gens est un mouvement majeur, excessivement important, s'est vraiment construit dans la confrontation physique et réelle dans les églises, dans les quartiers, entre les différents acteurs, entre Malcolm X et Martin Luther King, entre différents courants, et que les gens se sont construits peu à peu une homogénéité du mouvement qui a pu, quand même, d'accord, ça a pris du temps, mais avoir un président noir aux États-Unis. Donc, est-ce que les mouvements portés par Internet peuvent faire la même chose? Enfin, Internet, c'est la décentralisation. On a parlé du web. Le web, c'est la toile d'araignée. Regardez une araignée, comment elle construit sa toile. C'est très organisé, c'est très, très, très méthodique. À la différence, le web s'est construit non pas comme une cathédrale, mais comme un bazar. C'est-à-dire, chacun venait avec son petit site, son idée, ce qu'il avait à dire, et il y avait les liens hypertextes qui permettaient d'aller de l'un à l'autre et de construire des groupes. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, on va s'exprimer dans une structure centralisée qui est une plateforme géante. Voilà. Qu'on appelle des médias sociaux. J'utilise le terme médias sociaux et non pas réseaux sociaux, hein, qui est un très mauvais terme. Les réseaux sociaux, c'est des réseaux d'humains. Ça existe. Ils sont très complexes. Un individu est dans plusieurs réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire, les réseaux sociaux, c'est une théorie où, en fait, ce qui est important, c'est de savoir quels sont ce qu'on appelle les trous structurants, c'est-à-dire comment des groupes qui ne sont pas réunis vont pouvoir se mettre en contact pour former la capacité démocratique dont nous avons besoin. Donc ça, c'est l'usage des réseaux sociaux. Les médias sociaux, c'est pas du tout ça. C'est on va s'exprimer sur une plateforme qui appartient à quelqu'un d'autre, qui est un service commercial et qui n'est à aucun moment un service destiné à favoriser notre émancipation. Voilà. Donc, derrière cette question des médias sociaux, donc le fait que les gens s'expriment avec leur cœur et leur âme à l'intérieur d'une structure commerciale qui a un objectif commercial, le gros problème, le premier problème, en tout cas, s'il y en a d'autres, c'est celui de la vie privée. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie privée? C'est pas une notion simple. Surtout, ce que les gens essaieraient de nous faire croire aujourd'hui, c'est que la vie privée, c'est ce qui se passe dans notre chambre à coucher. Ben non, 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 la vie privée, ça existe en public. Quand je suis dans une manifestation, pour être fonctionnaire, je suis dans ma vie privée. Mon patron fonctionnaire ne peut pas me critiquer pour avoir participé à une activité publique au nom de ma personnalité privée. Donc c'est vraiment important. La vie privée, c'est en fait qu'est-ce qu'on donne aux autres? Qu'est-ce que les autres ont accès à nous? Or, on s'aperçoit aujourd'hui que ces grandes plateformes ont accès à tout. Le proverbe dit que Google en sait plus sur nous que notre psychanalyste. Donc, peut-il y avoir une démocratie quand on n'a pas un quant à soi, quand on n'a pas une capacité où les autres ne le savent pas? On reviendra peut-être dans le débat là-dessus. Alors, comment fonctionnent ces grandes plateformes autour d'une logique qui s'appelle l'économie de l'attention? Leur intérêt, c'est qu'on revienne en permanence chez eux. Alors, comment ils font? Ils multiplient les services. Google, vous savez, il y a YouTube, il y a Google la recherche, il y a Google Mail, il y a toute une série de services. On multiplie et vous ne quittez pas. Amazon fait la même chose. Vous achetez des livres. Vous avez commencé par acheter des livres. Puis maintenant, vous regardez les vidéos. Puis vous lisez les livres en ligne où vous êtes payé à la page, enfin, où l'auteur est payé à la page. Enfin, tout ce système, y compris maintenant un assistant vocal qui est mis dans votre salon. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, la logique est s'étendre sur tous les terrains et puis utiliser toutes les ressources de la psychologie, notamment la psychologie cognitive, pour vous hameçonner, pour faire que vous soyez toujours en train de revenir sur la plateforme. Alors, quelle que soit la plateforme, on est toujours une cible d'une manipulation de psychologie cognitive. Là, je cite la plateforme Uber. Ce n'est pas vous, comme client, qui êtes la vraie cible de l'économie de l'attention. C'est le chauffeur Uber. Pour que Uber gagne de l'argent, c'est-à-dire pour que vous preniez un Uber, il faut qu'il y ait toujours un Uber pas loin de chez vous, qui soit capable de venir vous prendre en quelques minutes et vous emporter où vous voulez aller. Et pour ça, il faut que les travailleurs de Uber travaillent tout le temps, qu'ils soient tout le temps disponibles près de chez vous. L'enjeu de la plateforme devient alors comment convaincre le chauffeur de rester au volant très longtemps. Et alors, il y a toute une série, il y a un très long article du New York Times, vraiment passionnant, qui décrit détail par détail comment ils s'y prennent pour faire garder le chauffeur. Et tu n'es plus qu'à une course de ton succès majeur. On va tous aller vers le succès, donc on va refaire la course. Si tu as encore la course qui n'est pas loin de chez toi, tu vas pouvoir toucher tant d'argent en plus. Toute une série de systèmes d'incitation, de jeux. On parle de gamification, ou en français on dit ludification, de transformer l'incitation en un jeu qui fait participer celui qui en est la victime a son propre enfermement à l'intérieur de la plateforme. Alors ça, c'est qu'un des exemples, mais toutes les plateformes fonctionnent sur cette base-là. Au début, on a cru aussi que la recommandation était un outil de liberté. Je vous recommande des bons livres. Par exemple, j'en ai amené plein, là. Mais en fait, ce n'est pas ça. La recommandation, c'est comment on va faire pour vous garder. Netflix a découvert que si vous avez fini de regarder un film ou une série et que vous n'en avez pas choisi une autre au bout de 90 secondes, une minute et demie, alors vous n'en choisirez pas, vous allez vous lever, vous allez aller faire autre chose. Donc, il ne veut pas. Donc, il faut qu'il vous propose. Et donc là, on a toute une série d'algorithmes qui classent pour que dans la minute qui suit, vous ayez envie de redémarrer quelque chose d'autre. Et ces algorithmes les classent. Vous croyez qu'il les classe personnalisés? Même pas. Il les classe en fonction de l'intérêt de la plateforme. Netflix met en avant toujours les productions Netflix. YouTube met en avant les productions Google YouTube, et ainsi de suite. Donc on est là encore plus doublement hameçonné par ce système. Les gens de chez Facebook ont publié en 2014, et pour moi c'est un point de bascule en science. C'est en science de l'information, en science psychologique, c'est un point de bascule. C'est la publication d'une recherche, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, qui a été menée par les gens de Facebook sur 700 000 cobayes, c'est-à-dire 700 000 personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient la cible d'une recherche. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé ces gens en deux groupes. Sur certains, on leur a mis des posts tristes sur leur fil Facebook. Il y avait plus de tristesse. À la fin, ils écrivaient plus tristes. Sur les autres, on a mis des choses plus gaies, et à la fin, ils écrivaient plus gaies. Et donc, on s'est aperçu qu'on pouvait comme ça changer le mood, changer l'état d'esprit d'une personne. Cette soi-disant recherche, qui ne correspond à aucun critère déontologique d'une université, a été publiée par la très prestigieuse revue qui s'appelle Proceeding of the National Academy of Science des États-Unis. Et l'argumentaire qu'ils ont dit, ah ben oui, mais Facebook étant une entreprise privée n'est pas obligé de suivre les règles déontologiques de l'université. D'habitude, ça fait rire, mais c'est grave, c'est grave. Qu'est-ce que ça change radicalement? C'est qu'à partir du moment où on a enclenché l'idée qu'on pouvait avoir une recherche clandestine sur l'usage des gens, parce qu'on était capable de capter les données, parce que ce n'est pas les universitaires qui captent les données, c'est Facebook, d'accord? Eh bien, ça nous a donné derrière Cambridge Analytica, donc le dernier scandale, mais il y a toute une logique qui est exactement la même que celle de cette publication soi-disant scientifique, qui est en fait une transformation, une démonstration par l'absurde qu'on peut modifier l'état d'esprit des gens sans être en contact avec eux. Or, justement, avant, on savait très bien que les groupes humains pouvaient modifier l'état d'esprit des gens. Par exemple, dans une manifestation, les gens, ils échangent quelque chose au-delà de leurs paroles. Ils gagnent une force démocratique qui est bien différente. Aujourd'hui, on sait qu'on peut le faire en ligne, surtout si on cible les gens, qu'on les connaît bien. Alors, il y a plein de recherches comme ça. On s'aperçoit, par exemple, que ceux qui écrivent sur Facebook deviennent plus gays, mais ceux qui ne font que lire se sentent écrasés. La dernière en date, c'est celle qui est d'un brevet qui a été validé par l'United States Patent Organization le 9 octobre, c'est-à-dire la semaine dernière. Ce brevet a été déposé par Amazon qui dit... J'ai chez les gens maintenant un assistant vocal, un truc auquel je parle. Alexa, tu peux me commander du thé, etc. Donc, un truc qui parle, mais qui, pour m'entendre au moment où je lui fais une commande, où je lui dis de baisser la lumière, ben, m'écoute tout le temps. Et il est capable maintenant de savoir si je vais bien ou pas bien, si j'ai un rhume, si, etc. Et de me présenter, avant même que tous les symptômes soient clairs, l'idée que je pourrais peut-être aller acheter un bon produit vendu par une grande pharmacie, etc., etc., etc. C'est écrit dans le brevet. C'est écrit dans le brevet que, sachant à la voix, au ton de la voix, l'état physique et psychologique d'une personne, on va pouvoir leur proposer des conseils. C'est-à-dire de la publicité, je dirais, ultra ciblée. Voilà. C'est ce que le Jaron Lanier, qui est un chercheur, c'est un des pionniers de la réalité virtuelle, et qui aujourd'hui appelle cette transformation des « boomers ». Il dit « c'est plus l'Internet ». Il faut arrêter de penser que c'est tout l'Internet. C'est une catégorie entière de l'Internet qu'il appelle les « boomers », c'est-à-dire des gens qui se mettent comme mission de modifier le comportement des gens et de louer ça à d'autres. Ils construisent un empire en louant leur capacité de modification de l'état d'esprit des gens. Principalement, ils le louent à la publicité. Mais il faut voir plus loin. L'industrie de l'influence, ça va au-delà. En Angleterre, l'armée britannique dépense des fortunes sur quelques jours pour envoyer de la publicité sur Facebook le jour des résultats de l'équivalent du baccalauréat. Et la publicité vise principalement ceux qui sont en échec. C'est, hein, et elle leur dit, mais quels que soient vos résultats, à l'armée, il y a toujours une place pour vous. Et on voit des petits jeunes en train de conduire un CAD ou sur une autre publicité, une Jeep, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est pas uniquement la publicité. C'est au-delà toute une série de systèmes d'influence où on va essayer de modifier le comportement des gens. Il y a des études qui montrent que sur l'élection de Trump, ça s'est joué sur très peu de voix. Vous savez que Trump est minoritaire en voix. Donc, si on garde les vieilles réflexions sociologiques sur le vote, tout ce qui est la sociologie du vote, on va dire, mais non, ça joue à la marge, c'est pas grave, les gens ont une... Oui, les gens ont continué à voter pour les démocrates de manière complètement majoritaire. Sauf que le système électoral étant très particulier, pas qu'aux États-Unis, chez nous, on a aussi le charcutage électoral et tous ces trucs-là. Donc, le système électoral particulier fait qu'il suffisait de viser quelques personnes pour faire basculer. Hein, il y a des États qui sont basculés à 70 000 voix. Voilà. Donc, c'est rien du tout, peanuts, à l'échelle d'un État. Et ça a favorisé, donc, sur très peu de choses, d'où l'idée de cette précision. Bon, moi, je pense qu'il faut considérer tout ça comme une industrie de l'influence. C'est-à-dire, on est passé à un stade industriel de l'influence. Et c'est assez grave parce qu'on, quand on parle des industries, on parle de l'industrie automobile, on parle de l'industrie ceci, cela. On ne pense pas qu'il y a une industrie de l'influence qui est en train de devenir une industrie majoritaire dans notre société parce qu'elle s'insinue dans tous les domaines. C'est une industrie puissante et c'est une industrie intelligente. N'oubliez pas qu'elle est intelligente. Ça, c'est une citation du responsable du marketing de Procter & Gamble en 94. 94, on est au tout début de l'Internet. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qui se passe maintenant. Nous allons pouvoir cibler les gens pendant la publicité. Ils resteront rivés devant leur écran pendant la publicité, ce qui était l'exact contraire de la publicité de masse qu'on connaissait auparavant. Alors, derrière les traces, il y a la surveillance. Hein, donc, l'excellent livre, Surveillance 2.//, qui est en fait le véritable protocole de l'Internet aujourd'hui. C'est un capitalisme de surveillance. Voilà. Enfin, pas tout l'Internet, les boomers, il a raison, Jaron Lanier, de ne pas tout mélanger. Et je vais y revenir juste après. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça?
Vous avez toujours rêvé de sauvegarder automatiquement toutes vos données, sans même avoir à vous en soucier. NSA Cloud Backup, le stockage illimité par le numéro 1 mondial de la sécurité informatique. Vous n'avez rien à configurer. Nous avons déjà les accès à tous vos équipements informatiques. Vos communications sans fil sont elles aussi intégralement conservées. La totalité de vos données est sauvegardée pendant plusieurs années dans l'un des 500 data centers de la NSA. Nous écoutons l'ensemble des points de raccordement du réseau ainsi que tous les câbles sous-marins. L'option Prisme permet de sauvegarder votre activité sur les réseaux sociaux et de réaliser des graphes complexes pour retrouver l'ensemble des amis avec lesquels vous communiquez. Avec NSA Cloud Backup, participez vous aussi au mouvement Open Data. Toutes vos informations sont mises à disposition des meilleurs analystes de la planète qui peuvent y accéder en toute liberté et produire des rapports de haute technicité. NSA Cloud Backup, souriez, vous êtes déjà abonné.
Je pense que l'humour est une grande arme utilisée sur Internet. Les mèmes, les gifs animés, les choses comme ça, cette capacité à détourner dans le sens de l'humour est importante. Mais attention, nos ennemis savent le faire aussi.
Europe is the tech maker. Startups are flourishing.
Les startups se développent en Europe. Il y a des plein d'apps géniales. Tout ça est possible jusqu'à ce que tout devienne noir. La publicité par les données est devenue interdite à cause.
Wasteland. Enter the apocalypse coming soon to cinemas.
Donc c'est une campagne des entreprises de l'industrie d'influence contre le règlement e-privacy qui vise à nous protéger, à protéger les individus. Hein? Et donc vous voyez, ils utilisent les mêmes canons de l'humour, de l'outrance, de l'exagération que ceux de la vidéo précédente. Je voulais vous parler d'une chose qui est l'invisibilité. Ça, c'est une œuvre d'artiste du FRAC de Provence-Alpes-Côte d'Azur, fait avec des ordinateurs. Et vous voyez, c'est tout noir, on ne voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Dans l'usine, on avait des tuyaux, les fluides, les choses comme ça. Il y avait une chaîne, on voyait la voiture avancer, donc on pouvait la bloquer. On avait toute une série de moyens face à l'entreprise industrielle de bloquer le système. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'intérieur de l'Internet nous est invisible. Et ce n'est pas seulement invisible parce qu'il n'y a pas de tuyau. Enfin, plutôt l'important, ce n'est pas la taille du tuyau, c'est ce qui passe dedans, c'est les bits et les octets. Mais c'est l'idée que le matériel même que nous avons ne nous appartient pas vraiment. Tous les matins, mon ordinateur me dit « Ah, cette nuit, pendant que tu dormais, j'ai mis à jour. » Vous avez besoin d'avoir confiance, hein. Votre téléphone mobile dit, vous voulez mettre à jour? Oui, non, vous, de toute façon, je vais vous mettre à jour quand même. Et vous êtes obligé de vouloir. Et donc, on est comme ça. L'appareil que nous avons acheté n'est pas le nôtre. Il est en fait un pseudopode du service qui nous l'a vendu. Alors ça, c'est problématique parce qu'on ne sait pas comment on peut avoir confiance vraiment. Après, il y a des débats. Plus confiance en Apple ou en Microsoft. C'est carrément théologique comme débat, hein. Il y a une affaire qui est majeure sur ça, qui nous montre ce que je parlais tout à l'heure de l'écosystème. L'écosystème, ce n'est pas uniquement Facebook et Google, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement cette partie du numérique qui correspond à nos activités d'expression, je dirais. Tout est en train de devenir ordinateur. Tout objet est en train de devenir un ordinateur. Les voitures, par exemple, aujourd'hui, mais les tracteurs. John Deere, le plus grand fabricant de tracteurs aux États-Unis, a fait des tracteurs qui sont entièrement maintenant avec des ordinateurs partout, mais que surtout plus personne ne peut réparer à part les concessionnaires de John Deere. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Volkswagen? C'est qu'on a eu, à un moment donné, des chercheurs de l'Université de Virginie qui se sont dit, mais c'est bizarre quand même, toutes ces données qui nous disent que ça pollue pas, alors qu'on voit bien que ça pollue, on voit bien ce smog qu'il y a dans les villes, etc. Donc, ils ont fait une enquête. Ils ont mis des appareils dans les voitures Volkswagen, et puis ils ont récupéré le tuyau derrière, et puis ils se sont aperçus que, en fait, les voitures polluaient 40 à 70% plus que les normes autorisées. Pourquoi? Parce que les normes ne sont jamais calculées comme ça. On prend la voiture, on roule dans la vraie vie, quoi, et puis on regarde combien il y a de pollution. Les normes, c'est en laboratoire. Il faut que ce soit synthétique, les choses soient... Et donc, il suffisait de mettre un logiciel qui reconnaît est-ce qu'on est dans le mode laboratoire ou est-ce qu'on est en mode dans la vie réelle. Si on est en mode laboratoire, l'objectif numéro un, c'est diminuer la pollution. Donc, on bride le moteur. Si on a des vies dans la vie réelle, l'objectif numéro un, c'est de vous en mettre sous le champignon. Et donc, à ce moment-là, on peut y aller, tant pis pour la pollution. Ce logiciel a été fabriqué par Bosch. Bosch l'a fourni. Alors, depuis, on a appris que ce n'est pas seulement Volkswagen, mais c'est tous les autres. Et Bosch dit, mais moi, j'y suis pour rien, j'ai fabriqué qu'un logiciel, c'était pour des tests. D'accord ? L'irresponsabilité du développeur informatique est quelque chose qui pose de vrais problèmes aujourd'hui. Et c'est pas moi qui le dis de mon petit niveau, c'est la présidente de la Mozilla Foundation. Mozilla, vous savez, c'est ceux qui font le logiciel Firefox. La présidente de la Mozilla Foundation a déclaré, c'est hier dans le Guardian, qu'elle allait embaucher des psychologues et des philosophes parce que si on laisse les techniciens tout seuls dans leur coin, on va vers un monde qui est complètement dystopique. Il faut qu'ils soient capables de pondérer ce qui est possible techniquement par ce qui est souhaitable socialement. Donc, voilà. Donc là, dans cette affaire Volkswagen, ce qui est intéressant, donc, c'est le fait que ce soit un logiciel alors que tout devient logiciel. Okay ? C'est aussi la capacité à détourner la loi via le logiciel. Alors, il n'y a pas que les lois sur les impôts, vous savez tous, détourner les lois sur... Non, on s'aperçoit que dans les logiciels embarqués, c'est-à-dire les logiciels qui sont dans les objets eux-mêmes, il y a des outils maintenant pour détourner la loi. Et en face, nos puissances publiques n'ont plus d'inspecteurs, n'ont plus de moyens, etc. Il n'y a pas que dans le domaine des médicaments que, en fait, les seuls experts sont aussi les membres de l'industrie. C'est vrai en informatique et c'est vrai dans tous les domaines. En plus, on est face à un monde qui non seulement est invisible, mais complexe. Les automobiles, c'est 100 millions de lignes de code, pour le dire. Facebook, c'est 60 millions de lignes de code. Donc, c'est des systèmes où c'est vraiment très, très dur. Et quand, suite à un accident qui a eu lieu sur une Toyota, des experts ont été examinés le logiciel, ils ont dit, bon, spaghetti. Logiciel spaghetti, oui, ça marche, mais c'est un miracle. Et donc, c'est à la portée de tout trou de sécurité. Et donc, maintenant, jour après jour, on nous apprend qu'il y a un bug de sécurité par-ci, un bug de... Oui, mais c'est inévitable, hein. C'est absolument inévitable. Donc, tant qu'on ne se donnera pas des moyens juridiques, des moyens légaux, des moyens de coercition contre ceux qui exploitent ces trous de sécurité, ça ne changera rien, parce que c'est congénital de l'informatique, le trou de sécurité. Oui, mais quand en même temps, c'est les États, la NSA, ce que nous a montré Edward Snowden, qui sont les premiers utilisateurs de ces trous de sécurité, effectivement, on peut difficilement compter sur eux. Ensuite, pour faire des lois et poursuivre ceux qui utilisent les trous de sécurité. On est là dans un véritable problème, une démocratique de base. Une des solutions que proposent les informaticiens pour l'émancipation, c'est l'idée qu'on va ouvrir le code informatique. Certes, tout le monde ne le regardera pas, mais il suffit que quelqu'un aille le regarder et trouve le trou de sécurité. Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire Volkswagen, c'est la petite lettre en bas, là, que vous voyez, là. Ça, c'est une lettre faite par l'Environmental Protection Agency, qui répondait aux informaticiens qui disaient il faut absolument que le code embarqué dans les voitures soit ouvert pour qu'on puisse aller regarder ce qui se fait. Et que répond l'Environmental Protection Agency? Ah non, 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 absolument. Je ne parle pas qu'elle avait une pression du groupe de pression Volkswagen et Lobby. Ça n'existe pas. Hein. C'est pas Danone au ministère de l'écologie, tout ça. Non, non, ça n'existe pas. D'accord, c'est vraiment du point de vue de l'EPA de dire si on ouvre le code, ça va permettre aux pirates de dépasser les normes. C'est justement ce que faisait Volkswagen caché derrière son code privé. Alors, ce qui est intéressant, et je vais terminer là-dessus, c'est de voir quand même ceux qui utilisent l'Internet pour l'émancipation. Parce que c'est bien gentil. Bon, je vous ai décrit un monde un peu dystopique. Maintenant, revenons sur les capacités de l'Internet à reconstruire des alternatives. Un des premiers à avoir fait ça, c'est ce jeune barbu qui maintenant n'est plus si jeune, mais il est toujours barbu, qui s'appelle Richard Stallman. Et c'est lui qui invente l'idée de logiciel libre. C'est-à-dire l'idée qu'un logiciel, les autres informaticiens, pas tout le monde, oui, mais c'est surtout les autres informaticiens, peuvent aller regarder comment c'est fait, s'en servir, le reprendre, le modifier, le redistribuer, etc., etc. Pourquoi dit-il ça? Il dit, mais attendez, vous n'avez pas compris, on est en 84, hein, c'est visionnaire. Hein. Il dit, vous n'avez pas compris là, c'est que tout va devenir dans du logiciel. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le savoir, toute la connaissance, tout ce qu'on va mettre en œuvre, toutes les techniques qu'on va mettre en œuvre vont passer par un moment de logiciel. Si ce moment de logiciel est privé, mais qu'est-ce qu'il reste de nos libertés? C'est un logiciel libre. Richard Stallman, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui a vraiment fait une révolution. Lui, il l'a gagné. Bon, voilà, c'est pas mal, déjà. Le problème, c'est que depuis, ça s'est déplacé de la gestion du logiciel à la gestion des services. C'est Facebook et Google sont faits avec du logiciel libre. Le logiciel, lui, est libre, mais le service ne l'est pas du tout. C'est un peu comme toutes les révolutions, on gagne sur un terrain, et puis après, il faut recommencer sur un autre terrain. L'idée qu'il y aura une fin de l'histoire, qu'elle soit belle et révolutionnaire, ou qu'elle soit moche, et dans le contentieux rationnaire, ça n'existe pas. Il y a toujours des combats dans l'histoire. Autre grand exemple donc de l'usage de l'Internet et de ses capacités pour construire quelque chose de radicalement nouveau, mais qui sert les populations, c'est l'encyclopédie Wikipédia, dont vous ne vous servez jamais, je sais bien. Mais bon, voilà, c'est une encyclopédie qui a ses propres règles, sa propre organisation pour essayer de construire tout le savoir du monde. Pareil. C'est génial, Wikipédia. Puis, il y a des problèmes. Il y a des bureaucrates. Il y a des bureaucrates. Ça fait partie des structures humaines. Toute structure qui est grande a des bureaucrates. Alors, il y en a aussi dans Wikipédia. Mais bon, on y arrive quand même à passer, à faire avancer des idées. Il y a un autre système comme ça qui s'appelle OpenStreetMap, qui est un système qui permet de faire des cartes libres. Donc, des cartes dans lesquelles chacun peut venir rajouter de l'information. Par exemple, ça intéresse beaucoup les pompiers. Les SDI ont tendance à se servir de ça parce qu'ils peuvent rajouter des informations qui les intéressent. Les points dangereux, les points d'eau, tout ce dont ils vont avoir besoin dans leur métier, ils le mettent sur la carte. Mais il y a aussi les mouvements qui peuvent mettre comme ça. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Falling Fruits, les fruits tombés, qui raconte ville par ville, et il y en a à Caen, quels sont les endroits où il y a des arbres où on peut aller ramasser les pommes ou ramasser les cerises selon la saison, où il y a des choses qui sont dans le domaine public et qui vont nous aider à faire du glanage urbain. Il y a des gens que j'aime beaucoup, qui s'appellent Framasoft, qui ont décidé de dégoogliser l'Internet, c'est-à-dire qu'ils essayent de produire sur un mode associatif les équivalents des services de Google. À part le mail, parce que c'est vraiment trop compliqué. Donc, service de recherche, service d'écriture collective, service de vidéo, aujourd'hui avec un PeerTube pour remplacer YouTube, ainsi de suite. Donc, ils appellent ça maintenant Contributopia, le terme est là, contributif et utopique, mais c'est petit, c'est pas grand, mais c'est l'idée de redéfendre un web décentralisé. Voilà. Il y a les gens qui ont créé les Creative Commons. Creative Commons, c'est l'idée qu'un auteur, donc un auteur de texte, de vidéo, de musique, etc., dit, j'ai créé ça. Si vous faites du commerce, je veux bien gagner de l'argent, mais si vous n'en faites pas, je veux bien que ça soit distribué quand même. Je préfère que mes idées circulent, même si Donc, c'est un deal que l'auteur choisit entre ce qu'il va gagner et le fait que ses idées ou ses créations circulent. Et d'ailleurs, ils peuvent s'y retrouver sur les deux plans aussi, parce qu'il se fait connaître en donnant gratuitement. Et puis demain, il vendra. C'est pas opposé. Cette idée que la gratuité serait un critère, pour moi, c'est pas un critère. J'aime beaucoup le dessin ici. Voilà. C'est l'idée que la gratuité, c'est pas un critère. C'est pas parce que c'est gratuit que ça va être ouvert et libre. La gratuité peut être une conséquence. Voilà. Alors, tout ça pour terminer, dire que on a un problème de démocratie technique. C'est-à-dire pas seulement de démocratie en général, et ça, on en a. Je pense qu'on y reviendra, mais de l'irruption même de cette technique informatique invisible, embarquée, nous pose un problème démocratique. Comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Et c'est ça qui est la vraie question qui nous est posée. D'une part, il va falloir augmenter les compétences techniques des populations. C'est-à-dire, principalement, que les gens arrêtent de dire « j'utilise Word », mais disent « j'utilise un traitement de texte ». Et donc, si ce n'est pas Word, ça peut être un autre, comme un logiciel libre, comme OpenOffice. Voilà. Parce qu'on va distinguer la fonction du produit. Ça, je ne fais pas à Google, je fais une recherche sur le web. Et donc, on peut utiliser Quant, qui est un système de recherche qui protège la vie privée, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est. Voilà. Essayer de prendre du recul sur cette technique, même si, je répète, nous sommes dans un écosystème, donc nous sommes plongés dedans. Nous allons devoir travailler la question de la loyauté. La loyauté, ça veut dire, est-ce que vous faites vraiment ce que vous dites? Alors, c'est pas mal parce que le RGPD, dont vous avez entendu parler, est basé sur cette idée de la loyauté. Il demande, en fait, aux services en ligne de dire... Il interdit pas les cookies, il interdit pas le traçage, il dit, dites-le aux gens. Et dites ce que vous allez en faire derrière. Bon, d'accord, si Facebook devait dire qu'il se sert de ça pour modifier notre comportement, ça serait compliqué. D'accord? Donc il va falloir en plus que la loyauté, c'est pareil, c'est une question historique, donc c'est une question de combat, une question d'imposer la loyauté. J'aime beaucoup ce dessin qui vient de Larry Lessig, qui est le fondateur des Creative Commons. En France, nous avons tendance à penser que la démocratie, et donc derrière les capacités de régulation d'un système, sont le double produit de l'élection et de la loi. C'est le sous-produit de la Révolution française, des mythes de la Révolution française. Larry Lessig, qui est américain, un peu plus pragmatique, dit non, si on veut une régulation d'un système, il faut en fait agir sur quatre domaines. La loi, bien évidemment, il est juriste en plus, alors... Le marché, il a des avantages. Il a, par exemple, le marché, ça a l'avantage de gérer de la concurrence. Et donc, derrière, une démocratisation de l'accès aux connaissances, à la culture, aux objets, par le biais de la concurrence. Sauf que le marché lui-même doit être régulé. Et c'est aujourd'hui le grand débat sur qu'est-ce que ça veut dire les lois anti-monopole à l'ère de l'Internet. C'est plus les mêmes que les lois anti-monopole de l'ère du pétrole. Il faut continuer à avoir les lois anti-monopole, l'ère du pétrole, d'accord, hein. Mais il faut en rajouter d'autres pour contrôler l'Internet. En particulier, il faut non pas juger le monopole sur une question uniquement économique, non pas juger le marché sur ses résultats économiques, mais sur son impact sur la société. Quand Amazon détruit le système du livre et des librairies, ben, ça a un impact sur la société. Voilà. Donc, quand en plus il devient une place de marché pour tout, ça a un impact énorme sur la société, avec des nouvelles divisions très graves, qui est seuls ceux qui ont les capacités techniques, financières, une carte bleue, vont pouvoir acheter des choses, puisqu'il n'y aura plus de petits commerces. Ça commence à être déjà le cas aux États-Unis. Hein, il faudra aller ensuite uniquement dans les supermarchés, les choses comme ça. Donc le marché. Les normes sociales. Les normes sociales, c'est les normes de comportement. Comment les gens se comportent. On voit avec cette histoire des fake news, des infox, que c'est les gens aussi qui les ont portés, ça. Donc, tu as une forme derrière de servitude volontaire des gens face à leur système. Et donc, de ce point de vue-là, il faut repenser aussi quelles sont les normes sociales qui vont de pair avec l'émancipation, comment on les met en avant. C'est, par exemple, ce que fait le mouvement MeToo aujourd'hui, le nouveau mouvement féministe. Enfin, la question d'architecture, c'est-à-dire, Larry Lessig l'exprime sur une formule qui dit « code is law ». Ceux qui codent l'informatique, en fait, ils écrivent de la loi. parce qu'après, on est obligé de faire comme ils disent. Voilà. Donc, quelle est l'architecture, comment ça va pouvoir être travaillé? Et enfin, j'aime bien aussi ce dessin qui vient de Dominique Cardon et Thierry Tabois. C'est l'idée qu'il y a trois formes démocratiques. La première, c'est la démocratie représentative, où en fait, tout le monde élit un centre qui va prendre des décisions. La démocratie participative, c'est tout le monde veut essayer de participer à la décision qui reste néanmoins toujours prise par ce centre. Et enfin, la démocratie Internet, c'est l'idée qu'un peu les gens font dans leur coin. On parle de douocratie hein, dans les milieux. C'est-à-dire ceux qui font quelque chose ben, ont un avantage sur ceux qui ne font pas. C'est eux qui vont bousculer le monde. Alors le problème, c'est que ça a souvent servi justement aux gens qui parlaient de rupture, de disruption, de choses comme ça, et donc qui ont inventé des nouveaux systèmes de domination comme ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ça peut aussi servir de forme démocratique pour les mouvements d'émancipation. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Et puis, voilà.